Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, le pagne sous toutes ses coutures, culture, mode, amour, commerce, industrie et même politique. Il y a tout dans le pagne, vous allez le comprendre. Reportage à Lomé, au Togo. Lomé qui fut la capitale du commerce du pagne dans les années 70-80 avec les Nana Benz devenus des symboles de réussite économique au féminin. Un âge d'or qui s'est effondré dans les années 90. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo a organisé en avril dernier, une manifestation qui s'appelle Pagne en fête à Lomé, avec des conférences, une exposition, des ateliers, des défilés. Une première édition, un peu plus d'un an après l'incendie qui a ravagé le marché principal de Lomé. Alors le pagne africain a-t-il encore de beaux jours devant lui? Peut-on même relancer une production made in Africa? On va en parler. Bonjour Alice Milot.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez assisté à cette manifestation Pagne en fête qui s'est tenue en avril dernier à Lomé au Togo. Pendant une semaine, vous avez plongé votre micro dans l'univers du pagne, l'étoffe de base pour s'habiller en Afrique à l'heure du jean. Évidemment, le pagne n'est plus un vêtement comme les autres.
Et oui, et celle qui en parle le mieux, c'est Liliane Ayoko Kwevi. C'est une commerçante qui vend du pagne depuis plus de 30 ans. Elle a accepté, à force d'insister, de me montrer ses trésors.
Alice, voilà ma chambre.
Waouh, tous ces grands placards là, c'est que des pagnes.
Oui, que des pagnes. Des pagnes de soirée, des pagnes de marché, des pagnes de maison. J'ai plus de 200 paires de pagnes. Hein. J'en ai ici, j'en ai dans la chambre de ma mère, et j'en ai chez mon père. Et on n'en a jamais assez. À chaque arrivage, on dit, ah ça, je vais le prendre. Des fois, même pour un motif, on peut prendre 5 coloris dans le même motif. On en met, comme un enfant qui avale du chocolat. Ça me passionne parce que je suis née dans le pagne, tout mon être, c'est le pagne. Ah oui, je les adore. Surtout les pagnes. Il y a deux ou trois pagnes ici que j'adore beaucoup plus. C'est le pagne qui a été, il y a l'effigie de mon grand-père.
Il y a un dessin de votre grand-père sur le pagne.
Voilà, sur le pagne. On a fêté son centenaire quand il était mort et on a fait un pagne. C'est le grand-père de ma mère. Et il y a un autre, alors là, c'est quand je suis en colère que je porte ce pagne. Parce que ma mère est morte quand j'étais en France. Quand je suis revenue, c'est avec cette robe que je l'ai vue à la mort. Des fois, quand je me sens mal dans ma peau, je mets sa robe et puis c'est comme si elle était toujours là. Qu'elle me cajole, qu'elle me console, ma fille, ne crée rien, je suis avec toi. Alors quand je m'énerve, je porte le pagne que j'ai trouvé sur ma mère quand je suis rentrée. Mes pagnes sont imprégnées d'affection. Il y a tout dans le pagne. Il y a la joie, il y a le deuil, il y a les pleurs. Le pagne est tout en Afrique. Le pagne est notre Dieu en Afrique.
Un dieu pagne qui a plusieurs visages, Alice Milot. Il existe le pagne traditionnel africain qui est un pagne tissé, mais celui qu'on trouve aujourd'hui en grande majorité sur les marchés africains, c'est le pagne wax en coton imprimé et qui vient de Hollande, Alice.
Oui, au milieu du 19e siècle, les Pays-Bas dominent l'Indonésie et c'est là qu'ils découvrent le procédé du pagne wax. Le tissu est recouvert de cire, ce qui permet de mieux fixer les couleurs. Les Pays-Bas commencent alors à importer des pagnes en Europe et ça touche des soldats ghanéens qui sont à l'époque très nombreux dans l'armée coloniale. Hollandaise.
Donc ce sont les Ghanéens qui introduisent le pagne en Afrique, mais pourquoi le pagne rencontre tout de suite un vrai succès?
Parce qu'il est très résistant, il est coloré et surtout il est très agréable à porter dans des pays où il fait très chaud. Les Hollandais ont donc la main mise sur le marché ouest africain jusqu'à peu près dans les années 70, date à laquelle une poignée de femmes togolaises va s'imposer comme étant les premières grossistes de la sous-région. Ce sont les fameuses Nana Benz qui obtiennent le monopole sur certains dessins de la célèbre marque hollandaise Vlisco. Dalé Hélène Labitte, petite fille de Nana Benz. Elle vient d'écrire un livre à ce sujet, Nana Benz, parcours de vie. Elle nous raconte l'histoire incroyable de ces femmes.
Les Nana Benz sont des revendeuses qui n'ont pas voulu rester que des revendeuses, mais qui ont voulu être des créateurs des tissus qu'elles vendaient. Au départ, les maisons de commerce leur présentaient les tissus et elles adaptaient ces tissus au goût selon les pays. De la clientèle qui venait chez elles, elles avaient l'exclusivité sur ces dessins parce qu'elles contribuaient à sa création.
Elles alimentaient toute la sous-région, en fait.
Oui, elles alimentaient toute la sous-région jusqu'au Congo. Le Togo, bien Lomé, la capitale du pain, c'est grâce à ces femmes-là. Et c'est comme ça que ce petit cercle de commerçantes est né. Elles sont devenues rapidement riches. Et l'une d'entre elles s'est achetée une Mercedes-Benz. Les autres l'ont suivie. Et voilà, leur nom est né comme ça, les Nana Benz. Ce sont des fortunes qui se sont constituées à partir de rien. Il y en a parmi elles qui n'ont jamais été à l'école. Cela a été l'occasion de fantasmes, d'histoires pas possibles. On racontait qu'elles avaient des serpents dans leur chambre, dans les armoires. Les femmes mettaient les serpents dans leur pagne pour sortir. Et c'est de ce serpent-là que venait leur fortune, etc. On racontait n'importe quoi parce que c'était vraiment du jamais vu. La femme était supposée être à la maison. Le mari allait chercher l'argent. Et voilà, ces braves femmes qui roulaient en Mercedes alors que les maris allaient à pied. Il y avait quelque chose de tout à fait inédit et je dirais même inconcevable. Elles ont démontré que la femme pouvait s'assumer, pouvait faire aussi bien que l'homme, sinon plus. Elles ont été des pionnières et la femme togolaise est devenue une femme entreprenante qui a la parole. Ma grand-mère a divorcé très tôt. Le jour où son mari l'a mise à la porte, c'était un jour de libération pour elle. Nous, on l'a toujours vue seule. Et elle était bien.
C'est donc, entre autres, pour rendre hommage à ces femmes que la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a organisé fin avril cet événement Pagne en fête, Alice Milo.
Oui, c'est ça. Alors, l'événement a été organisé au Palais des Congrès à Lomé. Sur l'esplanade, il y avait de nombreux stands et toute la semaine se sont tenues des conférences, des ateliers. Mais vraiment, le temps fort de Pagne en fête, ça a été le défilé de mode. Une dizaine de stylistes venus de toute l'Afrique sont venus montrer leurs dernières créations, principalement faites de Pagne. Et franchement, ça a été un succès fou. Le public était en délire.
On vous suit tout de suite dans les coulisses du défilé, quelques minutes avant l'entrée en scène. Vous êtes en compagnie d'Ayanik, une styliste togolaise, et Aiden, présentatrice de télévision spécialisée dans la mode africaine, qui a animé la soirée.
Les mannequins qui s'habillent pour Ayanik et qui doivent porter des coiffes, s'il vous plaît, levez-vous.
Après, tu viens, je te ferme la fermeture, s'il te plaît.
La dernière touche, vous ajustez vous-même le bustier sur le mannequin.
Ben oui, au moins, je suis sûre que la fermeture ne va pas craquer. C'est important.
On sent de l'électricité dans l'air.
C'est toute une organisation, les mannequins en train de s'habiller, les coiffeuses en train de préparer leurs coiffes, la maquilleuse qui arrache les filles parce qu'elle n'a pas fini, la styliste qui dit non, il faut que moi j'habille d'abord. C'est souvent compliqué, mais bon, à la fin, c'est génial.
Je sens que je vais me défouler grave sur le podium. Ah oui.
Ça vous plaît de porter du pagne?
Ah oui, je les adore. C'est des tenues qui me ressemblent. Pour moi, ça représente toute l'Afrique.
Avili.
Là, j'ai trois tenues.
On voit, il y a des paillettes, il y a des perles aussi, ça brille, hein. C'est très chatoyant.
Oui. Ah oui, oui, j'ai modernisé le pagne parce que cette génération qui grandit, ils vont s'en foutre royalement du pagne parce que les enfants n'ont pas forcément envie de porter les mêmes choses que leur grand-mère. Ça fait vieux. Si on veut rester dans la tradition, le pagne va disparaître. Il faut nécessairement moderniser. Que ça donne envie d'être porté. Et ça, c'est un devoir.
En fait, le pagne s'est démocratisé. Maintenant, le pagne appartient aussi bien à la rue, qu'au bureau, qu'aux cérémonies. Et ça, c'est une grande nouveauté de ces dernières années. Le pagne de l'époque, il y avait des modèles qui étaient un peu systématiques, comme la jupe sirène, le bustier ou le corsage, etc. Aujourd'hui, ça n'est pas du tout indispensable de porter le pagne en total look. Et je pense que c'est ce qui refroidissait aussi un peu en Europe. On est sur des formes moins encombrantes, mais plus pratiques aussi. Quand vous portez juste une ceinture en pagne ou une petite jupe en pagne avec un chemisier noir, ça fait ressortir le motif, c'est très classe. Et tout de suite, on n'a pas cette impression de trop charger.
Ça ne choquerait pas les grands-mères de voir comment le pagne a été revisité aujourd'hui par ses créateurs?
Je pense qu'au contraire, elles sont contentes parce que l'important au niveau culturel, c'est que certaines traditions se perpétuent, même si elles sont réadaptées. Je pense au contraire que c'est de beaux clins d'œil à cette génération de mamans.
Parfois fatale, toujours subtile, réservée.
milliards de voisins, tous sur le pagne. Votre reportage, Alice Milo. Alors, un pagne qui revient à la mode, donc. Mais quel est finalement l'enjeu de sauvegarder le pagne? Est-ce qu'il s'agit surtout de conserver une partie de l'identité africaine?
Oui. Et pour mieux comprendre tout ce que cache le pagne, je suis allée faire un petit tour dans l'exposition Amour de pagne, qui s'est tenue toute la semaine dans le hall du Palais des Congrès. Partout, des mannequins étaient exposés avec des pagnes historiques. Et aujourd'hui, même le secteur privé a bien compris que c'est le support incontournable. C'est ce que nous explique le professeur Achira Assi, enseignante en anthropologie à l'université de Lomé.
Vous voyez le pagne qui est contre le mur, un peu plus loin là.
Oui.
À l'intérieur, c'est écrit Togocel, 15 ans déjà.
C'est un opérateur téléphonique ici.
Voilà, un opérateur téléphonique. Pour ces 15 ans, vous voyez, Togocel a commandé un pagne. De plus en plus, les entreprises l'utilisent comme moyen publicitaire parce que le pagne est porté par 99% de la population togolaise. Dans le Togo profond, toute personne porte le pagne. À la naissance déjà, l'enfant est accueilli dans un pagne. Tous les cadeaux qui vont tourner autour du nouveau-né, ce sont des cadeaux faits à base de pagne. Ça peut être des pagnes déjà usagés. Et ces pagnes usagées vont servir à quoi? À des couches.
Donc les enfants naissent dans le pagne et grandissent dans le pagne.
Voilà, grandissent dans le pagne, meurent dans le pagne. À l'enterrement, le pagne est utilisé comme un linceul pour la dot, les fiançailles. 12 complets de pagne.
C'est obligatoire?
Obligatoire.
Ça doit coûter une fortune.
Ah mais oui, c'est pour ça que maintenant les gens ne se fiancent plus assez rapidement parce qu'il faut mobiliser de l'argent. Dans les 12 complets de pagne, le pagne rouge va servir de cache-sexe. Lorsqu'elle va passer ses règles, elle va s'en servir comme des serviettes hygiéniques. Lorsqu'elle veut biper son mari pour l'entrée en jeu, donc elle va se mettre en petit cache-sexe pour inviter le mari le soir, n'est-ce pas?
Pour le séduire.
Voilà. Voilà, c'est un objet de séduction. Alors, le port du pagne est quelque chose de fantastique parce que le pagne va vous placer dans la société, le pagne va vous identifier. Vous voyez la dame qui est habillée là, voilà l'exemple type d'une femme mariée. Elle va porter son pagne, elle va porter une chemise et puis elle portera un deuxième pagne en dessus. Et ça veut dire que son cœur est pris.
Donc c'est pas juste un vêtement en fait. C'est un moyen de communication.
Mais oui, bien sûr que c'est un moyen de communication.
Le fait de communiquer à travers un objet, c'est quand même pas banal.
Ça nous replonge dans la place de la femme dans la société africaine, qui parle en réalité très peu. Donc, sa façon de s'exprimer va relever des signes qu'elle va donner. Le pagne, tu sors, je sors. C'est le nom du pagne. Ça symbolise la liberté. Parce que nous sommes dans une société polygamique où les hommes ont plusieurs épouses. Alors, une femme qui porte un pagne, tu sors, je sors, ça veut dire tout simplement qu'elle fait un clin d'œil au mari. Attention, si tu prends trop d'épouses, moi aussi, je risque de...
C'est un avertissement.
Voilà, c'est un avertissement. Donc, vous voyez que le pagne va intervenir dans l'évolution même du statut de la femme. Porter sur soi l'expression même de ce qu'on pense et qu'on n'ose pas dire.
Le pagne au Togo, ce n'est évidemment pas que cet événement pagne en fête. C'est d'abord un business, même s'il n'est presque plus produit sur le continent africain. Alice Milo, vous nous emmenez au grand marché d'Adaolato, le marché historique de Lomé, qui était la plaque tournante de la vente de pagne à l'époque des Nanabens.
Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une drôle d'ambiance, hein, puisque je vous rappelle que le bâtiment principal du marché a entièrement brûlé en janvier 2013 dans un incendie. Liliane Ayoko Kouevi, commerçante de pagne, revient sur ce désastre.
T'as vu la cathédrale?
Oui, elle est magnifique.
On approche à petits pas dans là où il y avait le grand marché de Lomé qui a brûlé. Et aujourd'hui, c'est entouré de tôles avec les débris qui sont restés à l'intérieur.
C'est là que c'était, là où il y a le grand trou?
Oui. Il y avait un grand immeuble de 2 étages qui constituait le grand marché de Lomé, qui était en fonction depuis 1960.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
C'était dans la nuit du 12 au 13 janvier 2013 que bon, tout le monde s'est levé avec les cloches de la cathédrale qui étaient juste à côté. Et on criait que le marché a brûlé, on a couru et vraiment c'était en cendres. Ça brûlait de minuit moins jusqu'à 10 heures du matin. On était là, on regardait partir nos trésors de plus de 40 ans, partir en fumée. Et on est resté sans force et sans défense jusqu'à aujourd'hui.
Votre marchandise était à l'intérieur?
Ma marchandise était à l'intérieur, premier étage, à la boutique numéro 39B. Madame Kouevi, Jessie. Quand ça brûlait, Le premier mois, j'arrivais pas à passer par ici parce qu'à chaque fois, j'avais la chair de poule, j'avais comme un vertige. Mais là, maintenant, bon, ça va mieux. Tant et tant d'efforts en un jour effacés. On avait des pailles, on avait des trésors, on avait des bijoux familiaux, on avait des titres fonciers, on avait même de l'argent qu'on nous avait confié, mais tout est parti. Le marché a toujours été pour la femme togolaise un refuge. Et il y a même tout ce qu'on a de précieux parce que, bon, des fois, on a des maris qui sont voleurs. On a des enfants qui sont des drogués. Et on a peur aussi du voleur de l'extérieur qui vient avec le fusil ou bien le coupe-coupe. Alors s'il vient, il trouve rien. Tout est au marché. Alors le marché était pour la femme togolaise vraiment un refuge.
Mais pourquoi ils n'ont pas mis les espèces à la banque?
On n'a pas confiance. Nos grands-mères ne connaissaient pas la banque. Nos grands-mères mettaient leur argent dans un trou quelque part sous un arbre. Nous, on n'est pas habitués à la banque. Depuis que le marché a brûlé, bon, on nous a donné un petit marché récemment, au mois de février dernier, mais ils ont fait un marché provisoire, qu'on nomme le marché des deux châteaux à côté de Goscor, là où ils faisaient la foire. Mais tout le monde n'a pas pu avoir de place. Il y en a qui ont pris des magasins aux alentours du marché. Moi, je ne suis pas à l'aise là-bas. Pour le moment, je suis à la maison. Mais moi, bon, avec 35 ans de service, je me suis dit, il faut que je me repose un peu. Et quand il y aura le vrai marché reconstruit, je pourrai recommencer mes activités.
Tous les motifs, Marie capable.
Un jour. Oui, les motifs ivoiriens. Là, on est sur le site d'Abadahonou, le nouveau marché. Après l'incendie, on est venu sur le Kadzi ici. Ça, c'est fait par le gouvernement pour nous héberger le temps de reconstruire le marché.
Donc là, en fait, vous avez installé votre boutique dans un petit conteneur. Hein. C'est vraiment une petite pièce. Quoi. Vous êtes chacune dans des boîtes.
Ici, on le loue à 6 000 francs le mois. Pour le moment, je n'ai pas encore payé. Ça fait 7 mois que je leur dois. Mais ici, il n'y a pas de clientèle et il n'y a même pas de publicité autour. Quand les clients viennent ici, ils nous disent « Oh, vous êtes ici, on ne savait pas qu'il y a un nouveau marché ici. » Depuis octobre, c'est toujours comme ça. Quand ils auront commencé les pubs, moi, je pourrais commencer par payer. Le gouvernement n'a même pas présenté d'excuses pour ce qui s'est passé. Mais maintenant, l'État doit nous indemniser, se remettre à reconstruire le marché. C'est ce qui est important. Ils sont là aujourd'hui. Ils organisent la foire du pain. Ils sont partis pour l'inauguration, en fait, là, je ne sais pas trop quoi. Moi, je ne vais pas y aller. Parce qu'on n'est pas apaisé. C'est une belle initiative, mais ce n'est pas la bienvenue en ce temps. Les femmes ont perdu tout ce qu'elles avaient. Et ils sont là, se foutent de notre gueule. Et ils organisent une foire du pain, n'importe quoi. Moi, j'y vais pas. J'y vais pas.
Pour moi, le pain ne peut pas être en fête au Togo actuellement. Puisque tous nos pains sont brûlés au marché, quelle fête!
Vous avez perdu beaucoup, vous, dans l'incendie?
On n'a plus rien. J'ai fait 3 semaines sans parler. Hein. Et ce qui fait mal encore, les responsables, ils ne nous disent rien concernant l'incendie. Vraiment, c'est un incendie criminel. Le chef de l'État même l'a reconnu que ce n'est pas un accident, que c'est un crime. Il a même fait ouvrir des enquêtes jusqu'à là, on ne nous dit rien. Seulement qu'il y a eu des attaques entre opposants, où ils ont politisé la chose. Le pouvoir dit que c'est l'opposition, l'opposition dit que c'est le pouvoir. Mais si l'opposition arrive à pénétrer ce marché, à les brûler, ça veut dire que l'État ne représente plus rien dans le pays. Ah, les conséquences sont énormes. Vous savez, nous, les commerçants, on roule sur des prêts. On vit juste avec ces prêts-là. Et avec ça, ils nous demandent en même temps ce qui est brûlé.
De rembourser la marchandise qui a brûlé.
Oui, de rembourser la marchandise qui est brûlée. Il y a d'autres qui ont quitté le pays à cause de ça. Parce qu'il y a la banque qui les poursuit. Ma situation, elle est assez grave. Il faut venir chez moi à la maison pour voir comment j'arrive à vivre avec mes enfants. Puisque mon mari n'est pas là, je suis seule avec mes enfants. Mais actuellement, même j'ai des ordonnances de mes enfants que je n'arrive pas à payer. Même le manger à la maison, c'est difficile. Même la scolarité de nos enfants, c'est tout un problème. On est obligé d'aller négocier avec les directeurs des établissements.
Tout sur le pagne aujourd'hui chez 7 milliards de voisins. Je vous lis des réactions sur le fil Facebook. Gabriel nous dit l'État togolais doit sensibiliser les commerçants à cotiser un montant suffisant pour arranger les bâtiments qui avaient été détruits par le feu. Ou encore Mohamed y va de son proverbe, le pagne de la femme est la clé qui ouvre la porte entre la terre et le ciel. Voilà. Et il rajoute que c'est le symbole de la féminité africaine, mais aussi l'accoutrement du lutteur africain, à la fois artistique et mystique. Le pagne dans tous ses états et sous toutes ses coutures. Vous restez avec nous les voisins et les voisines. On en parle et bien évidemment, on attend vos appels. Vous pourrez réagir à la fin de l'émission. Appelez-nous dès maintenant pour vous inscrire au 33 1 84 22 71 71. Le pagne, c'est chez 7 milliards de voisins. On y revient juste après le flash.
Ça va.
Le monde.
Ça va, le monde. Pascal Paradou.
Des milliers de morts entre Mayotte et les Comores. Depuis 20 ans, une tragédie, un cri, celui de Seuf El Badaoui dans un texte poignant, Obsession de Lune.
Cette nuit, ils ont lancé la mort d'un des miens, mon cousin, happé par la vague, broyé par les flots.
Ça va, le monde.
Dimanche, à partir de 20h10 TU.
RFI.
À 12h30 à Paris, 10h30 en temps universel, vous écoutez RFI.
Romain Ozoui.
Avec un nouveau point sur l'actualité. Dès son premier discours sur le sol coréen, le pape François a lancé un appel à la réconciliation entre Séoul et Pyongyang. Le souverain pontife s'est exprimé devant les autorités de Séoul. Il s'agit du premier voyage d'un pape en Corée du Sud depuis Jean-Paul II en 1989. Mais une réconciliation à laquelle Pyongyang ne semble pas prêt. En réaction à l'arrivée du pape en Corée du Sud, le voisin nord-coréen a en effet tiré en mer 3 missiles de courte portée, puis 2 autres un peu plus tard. La trêve dans la bande de Gaza, prolongée de 5 jours, l'Égypte l'a annoncé hier soir, malgré les nouveaux échanges de frappes entre Israéliens et Palestiniens. Cette nuit, en effet, l'aviation israélienne a mené des raids sur Gaza. En représailles, affirme l'armée, à un tir de roquette qui avait été tiré depuis l'enclave palestinienne. Aucune victime n'a été signalée. À son tour, la Guinée décrète l'état d'urgence sanitaire face à l'épidémie d'Ebola. Les 3 autres pays touchés, Sierra Leone, Libéria et Nigeria, avaient déjà pris cette décision. Décision qui implique un certain nombre de mesures, notamment la mise en place d'un cordon sanitaire à tous les postes frontaliers. Selon le dernier bilan communiqué hier, l'épidémie a tué 1069 personnes. À noter que l'Allemagne a appelé ses citoyens à quitter la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, excepté bien sûr le personnel médical qui est engagé dans la lutte contre la maladie. 22 civils ont tué en 24 heures dans l'est de l'Ukraine, précisément à Lugansk, tenu par les séparatistes pro-russes, mais encerclé par l'armée ukrainienne. C'est un représentant de l'administration régionale qui communique ce bilan. Dans ce contexte d'instabilité, donc, se pose toujours la question du convoi humanitaire russe. Celui-ci est stationné depuis hier soir dans le sud de la Russie, à 300 km environ de la frontière ukrainienne. Kiev et la communauté internationale soupçonnent ce convoi de servir de couverture à une intervention de Moscou en Ukraine. L'Ukraine qui, hier soir, a posé de nouvelles conditions à l'entrée du convoi sur son sol, proposant que celui-ci soit inspecté par des représentants de l'OSCE avant que l'aide aux civils soit effectuée par la Croix-Rouge. C'est un coup de semonce pour les deux pays moteurs de la zone euro. L'Allemagne et la France enregistrent une contraction de leur économie au deuxième trimestre. À Berlin, cela s'est traduit par une baisse de 0,2% du produit intérieur brut. Le PIB qui, en France, continue de stagner, comme c'était déjà le cas au premier trimestre de cette année, voilà qui va obliger le gouvernement français à revoir ses prévisions budgétaires pour 2014. Enfin, en sport, les championnats d'Europe d'athlétisme, première médaille d'or hier soir pour la France dans l'épreuve féminine du saut en longueur, grâce à Héloïse De Sueur, les tricolores qui ont fait une moisson de médailles d'argent hier, 4 au total. Au programme aujourd'hui, l'entrée en lice du recordman du monde à la perche, Renaud Lavillény. 12h33 ici à Paris.
Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
J'adore le pain. Tu te dis que vraiment tu es africaine, quoi. Tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. C'est notre identité.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI, le pagne sous toutes ses coutures, avec le reportage d'Alice Milo qui est dans le studio. Et puis cette question, faut-il croire au pagne africain? N'oubliez pas, les voisins, les voisines, que vous pouvez réagir en direct à notre reportage sur les réseaux sociaux et puis nous appeler tout de suite pour passer dans l'émission. Le numéro de téléphone à composer, c'est le 33 1 84 22 71 71. On vous laisse la parole à la fin de l'émission, appelez tout de suite. Lomé a donc été, on le disait avant le flash, la capitale du pagne dans les années 70-80, mais à partir de 1990, eh bien c'est la chute avec la dévaluation du franc CFA. Ça provoque une hausse des prix, le monopole des Nana Ben, ça finit par être brisé par l'arrivée de nouvelles femmes sur le marché. Mais ce qui porte le coup de grâce, c'est vraiment l'arrivée de la concurrence chinoise. Alice Milo.
Oui, les Chinois se mettent à fabriquer du pagne dans leurs usines dès les années 90 et ils inondent le marché africain avec de la marchandise à très bas coût. Mais là où la situation devient dramatique, c'est quand les conteneurs venus de Chine débarquent au port de Lomé avec des pagnes contrefaits. Les Chinois copient les dessins des Hollandais Vlisco, et aujourd'hui on en trouve vraiment partout, hein. Selon Vlisco, pour deux originaux, on trouve 1000 produits chinois contrefaits sur le marché. Cette contrefaçon provoque la colère de certains commerçants, comme Sophie.
On est allé voir Vlisco, on leur a dit nos inquiétudes par rapport à la contrefaçon.
Là, vous avez sorti deux pagnes qui sont pareilles. Il y en a un hollandais et un qui est fait en Chine.
En Chine, oui. Il y a le vrai qui est le Vlisco de Hollande. Et la contrefaçon, tu dois être un connaisseur de pagne pour savoir qu'il y a une différence. Là, la différence, c'est que si tu touches le Vlisco, tu sens qu'il y a du coton là-dedans. Mais tu touches la contrefaçon, il y a un peu de nylon. Le hollandais, ça ne déteint pas. Tu peux l'utiliser comme tu veux. Le laver tous les jours, ça ne déteint pas. La contrefaçon, ça déteint.
Vous êtes dans le pagne depuis combien de temps ?
À peu près 5 ans. Hein. Mais ma mère était dans le pagne, ça fait plus de 40 ans.
Mais vous vendez que du pagne hollandais ?
Que du pagne hollandais. C'est le commerce de ma mère, c'est elle qui avait commencé avec le hollandais.
Qu'est-ce que préfèrent les femmes togolaises ici ? Elles préfèrent acheter chinois ou hollandais ?
Il y a des clientes dont la priorité est la qualité, et il y a d'autres, c'est le prix. Par rapport à la crise qu'on traverse dans le pays, tu es intéressé par un motif, c'est du hollandais. Tu préfères attendre que E-Target sorte sa contrefaçon, je le prends.
E-Target, c'est la marque chinoise. Hein. C'est quoi la différence de prix, vous m'avez dit ?
C'est énorme. Hein. Ça, ce qui est à 35 000 et ceci qui est à 7 000.
Le pagne hollandais est 4 fois plus cher que le chinois.
Que le chinois, oui. C'est une sorte de concurrence déloyale que E-Target est en train de faire à Vlisco.
Mais les Chinois ne vendent que de la contrefaçon ?
Non, ils ont leur dessin aussi. Quand ils contrefont les motifs, on n'arrive plus à vendre le Vlisco.
Si les femmes préfèrent acheter chinois, je comprends pas bien pourquoi du coup vous vendez que du hollandais.
Nous, on adore hollandais. On aime la qualité. J'aimerais pas refiler de n'importe quoi à mes clients. Je préfère que celles qui passent ici prennent du vrai. Et quand elles rentreront chez elles, elles seront fières d'avoir fait un bon choix. C'est pour ça, moi, j'ai opté pour le hollandais. Bon, si E-Target ne contrefaisait pas le Vlisco, je pourrais vendre de E-Target. Mais ils préfèrent actuellement aussi, ils foncent dans la contrefaçon.
Est-ce que vous attendez des mesures pour que ce soit interdit ?
Carrément interdit, quoi. La contrefaçon, c'est de la piraterie. Quand il y a la contrefaçon, ça déprécie la chose qui est contrefaite. Donc, on voudrait qu'on interdise la contrefaçon des motifs de Vlisco, la contrefaçon du pain hollandais. Ils peuvent faire leurs propres motifs, parce que les motifs, ça ne manque pas.
Je suis Alexis Akiremourou, deuxième vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. La contrefaçon est un délit. Le gouvernement du Togo a ratifié les accords de Bangui, notamment sur l'OAPI, qui est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et le gouvernement fait absolument des efforts pour lutter aux frontières. Les contrôles sont permanents.
Même sur le port de Lomé, là où il y a les cargaisons de pagne qui viennent de Chine.
Oui, oui.
Et là, quand on va au marché, il y a au moins 50% de la marchandise, c'est de la marchandise contrefaite. Comment vous expliquez ça ?
Je ne sais pas trop. Toujours est-il qu'il y a de temps à autre des saisies des produits contrefaits. Mais comment ils ont été introduits, je vous avoue franchement que je ne peux pas savoir. Il y a un travail pédagogique à faire aussi sur la contrefaçon pour éduquer la population également, mais pour éduquer également les commerçantes.
Qu'est-ce que vous diriez à une commerçante qui vend du pain contrefait ?
Je lui conseillerais de ne plus vendre de pain contrefait et de se chercher un autre secteur d'activité parce que tous les pains ne sont pas contrefaits.
Bonjour madame.
Bonjour madame, soyez la bienvenue.
Merci. C'est votre boutique ici ?
Oui,
c'est ma boutique.
Il y a plein de pagnes autour de nous. C'est quoi la provenance de ces pagnes ?
Ce sont des pagnes fabriquées en Chine.
Est-ce que les motifs qu'on voit ici, c'est des copies des pagnes wax hollandais ?
Tout ça, ce sont des copies. Il n'y a rien d'original. Aucun motif n'a été imaginé par les Chinois. Mais maintenant, les Chinois n'ont plus le droit de faire de la contrefaçon. C'est le grand souci actuellement.
Pourquoi vous avez choisi de vendre du pain chinois ?
Pour vendre du pain hollandais, il faut faire partie d'un clan. C'est un réseau assez hermétique. On n'y rentre pas comme ça. Tout le monde n'est pas autorisé à y entrer. Et le pain hollandais coûte cher, alors que le pain chinois est beaucoup plus accessible.
Si, dans quelques mois, par exemple, les Chinois n'ont plus le droit de faire de la contrefaçon, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur votre commerce ?
Ça a déjà commencé. Les stocks commencent à baisser. Si un jour on ferme définitivement les frontières à la contrefaçon, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Ce serait vraiment très dur pour nous. C'est notre seule source de revenus. Pour la plupart d'entre nous, on est les seuls à rapporter de l'argent à la maison. C'est nous qui couvrons les charges de la famille avec nos commerces. Nos maris n'ont pas de travail. Il n'y a pas de travail dans le pays. C'est nous qui tenons la maison. Donc ce serait vraiment une catastrophe. Si ça arrive, on mourra de faim. C'est la mort assurée.
Les Chinois n'auraient plus le droit de vous envoyer de la contrefaçon, mais ils vous enverraient d'autres modèles. Si vous vendez des nouveaux modèles chinois qui sont des modèles inédits et qui ne sont pas des copies, peut-être que les clients viendront acheter ça.
Les Chinois ont déjà créé leur propre style, leur propre motif, mais ça ne prend pas encore vraiment. Il faut du temps pour attirer les clientes, mais bon, il faut croiser les doigts et espérer que ça leur plaise rapidement. On a bien conscience que cette situation nous met en conflit avec celles qui vendent du pain hollandais. C'est vrai, il faut être honnête, la copie tue l'œuvre. Mais que voulez-vous? C'est notre seule source de revenus. C'est pas notre faute.
Est-ce que vous avez essayé d'expliquer votre situation auprès du gouvernement pour plaider votre cause?
J'ai arrêté l'école très jeune et donc je ne parle pas bien le français. Et aujourd'hui, je regrette. Car quand tu fais du commerce, il faut avoir un bon niveau scolaire, sinon tu es automatiquement exclu. Par exemple, dans ce genre de manifestation comme le pagne en fête, ne pas parler français, ça crée une barrière avec les autorités. Ils ne nous permettent pas de parler, oui, notre langue locale. Pourtant, c'est le genre d'événement où l'on pourrait dire ce qu'on a sur le cœur. Mais quand on ne parle pas français, c'est difficile d'intervenir. Je me sentirais toute timide devant un public avec un micro. C'est très frustrant.
Alice Milo, on n'a pas vraiment l'impression tout de même qu'il y ait une vraie volonté politique de lutter contre la contrefaçon de pagne au Togo.
Alors, c'est certain que si chaque conteneur était contrôlé par la douane, on pourrait déjà largement endiguer le problème. Même si il faut bien reconnaître qu'il est difficile partout dans le monde d'éradiquer la contrefaçon. Et puis bon, les contrefaçons rapportent à l'État des droits de douane hein, sur des gros volumes. Et ça, faut pas l'oublier. Pour conclure le match pagne hollandais contre pagne chinois, écoutez l'analyse la plus intéressante, celle d'Achille Chira Assi, anthropologue à l'université de Lomé.
Que ça soit la Hollande qui fasse la promotion du wax, que ça soit le Chinois qui fasse la promotion de Etarget, est-ce que le Togo en profite? Est-ce que l'Afrique en profite en réalité? C'est ça pour moi la vraie question. Pourquoi l'Afrique en profite? Pourquoi le Togolais en profite? Il faut que ce pagne soit fabriqué chez nous, que nous ayons des usines où on peut utiliser la main-d'œuvre, qu'on puisse employer les jeunes qui sont au chômage, qu'on puisse employer les créateurs qui sont là, nos jeunes dessinateurs qui sont là, parce que nous faisons toujours la politique de l'Occident. Qu'est-ce que la société togolaise y gagne? C'est ça la vraie question. Hein, on peut réussir. Moi, je ne pense pas que les Togolais soient nuls en pagne, mais on va essayer et on réussira.
Bon, alors, question, Alice, à quand le retour du pagne Made in Africa?
Eh bien, j'ai posé la question à Kegouni Chaniao, il est tisserand de pagne traditionnel et président du groupement interprofessionnel des artisans du Togo. Je l'ai rencontré à Pagne en fête, où il tenait un stand de tissage pour initier les visiteurs.
Appuyez fort, appuyez. Voilà, vous allez vous rendre compte que le fil est retenu.
Ah, c'est fort. Génial, j'adore. Faut tasser fort, il ne faut pas hésiter en fait.
Oui, mais n'hésitez pas.
Je vais faire le pantalon pour mon chéri alors.
Non, vous allez le faire. Jusqu'à la fin, vous allez le faire.
Mais là, je suis en train d'apprendre à tisser. Et ce que je remarque, c'est que c'est vraiment un travail de fourmi. C'est un travail très méticuleux. Je comprends pourquoi les tisserands sont souvent concentrés. C'est pas un métier où il faut être tout le temps en train de bavarder. J'ai commencé depuis à peine 5 minutes, mais je n'ai plus envie de m'arrêter.
Ici, on est au stand du tissage. C'est typiquement que le tissage togolais qui est exposé ici.
C'est le pagne avant le wax hollandais.
Oui, ça c'est un vieux pagne que nous avions hérité de nos grands-grands-grands-grands-parents. Donc en ce moment, le wax n'existait même pas. Même si le wax a fait une longue durée, il est arrivé en Afrique tout récemment. Pratiquement vers la fin du 19e siècle. Or, en ce moment, le tissage existait depuis.
Ça représente combien en pourcentage sur le marché le pagne traditionnel?
Un pourcentage très faible. Parce que les gens ont préféré ce qui vient d'ailleurs que de ce qui vient de chez eux.
Comment vous expliquez que les Africains ont préféré le wax au pagne traditionnel?
Ils ont pensé que le pagne traditionnel, c'est pour les grands jours seulement. Quelqu'un achète une tenue, elle attend les grands jours pour le porter. Le jour de mariage, le jour de baptême. ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire n'importe comment. Or, aujourd'hui, avec ce tissage, on peut faire beaucoup de choses avec. Non seulement les tenues traditionnelles, vous pouvez faire les tenues modernes avec, que vous pouvez porter tout le temps. Nos pagnes reviennent nettement moins chères que le pagne wax. La vraie difficulté des tisserands aujourd'hui, c'est la matière première. C'est vrai, le Togo est un producteur du coton, mais ce coton est à l'exportation. Il va en Europe ou en Asie. Le Burkina même a aujourd'hui des difficultés de nous livrer en matière première. On est obligé de se rabattre au Mali et le produit revient un peu plus cher. En 2000, les tisserands togolais étaient autour de 3500. Mais aujourd'hui, ils sont moins de 2000 même. Parce que la matière première n'existant pas, on était obligé d'aller à l'abandon. Beaucoup se sont retournés vers l'agriculture. Si aujourd'hui la matière première étant là, ils vont revenir. Il y avait deux usines au Togo qui faisaient le fil.
Qui transformaient le coton.
Qui transformaient le coton. Les deux usines ont fermé. Le matériel est là, l'équipement est là. C'est pour ça que nous sommes en train de plaider pour voir si au moins on peut essayer de reprendre ce côté-là pour que les artisans togolais, tisserands surtout, puissent trouver la matière première à leur niveau et pouvoir rabaisser le prix de leurs produits.
Donc qu'est-ce que vous voulez, la réouverture des usines?
Oui, la réouverture des usines. Quand on a le fil chez nous ici, il y a beaucoup de choses qui se réduisent. Les frais de transport vont se réduire. Que d'aller à Ouaga ou au Mali, ce n'est pas du tout la même chose. Et je suis sûr que si on a vraiment le fil fait dans toutes les couleurs, nos voisins même viendront le chercher chez nous. Maintenant, il faut des consommateurs. C'est ce qu'il faut faire comprendre aux gens, que ce que les Chinois nous vendent aujourd'hui n'est pas d'une bonne qualité. Acheter d'une mauvaise qualité, c'est acheter plus cher, sans se rendre compte.
Vous allez leur voler leur marché, là?
C'est le contraire, c'est eux qui ont volé notre marché. Nous, on existait avant eux. Ils sont venus aujourd'hui, ils ont détruit notre marché. Nous, on veut récupérer notre place.
Bon, fabriquer plus de pagne tissée en Afrique, l'idée est séduisante, mais est-ce que c'est réaliste économiquement? À quel prix pour les consommateurs, Alice?
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le pagne tissé artisanal est plus cher que le pagne chinois, hein, mais il reste de toute façon moins cher que le pagne hollandais Blisco. Et l'avantage du pagne made in Togo, c'est qu'il n'y a pas de droit de douane à payer.
Alors là, on parle bien de tissage, mais est-ce que dans le fond, les consommateurs ne veulent pas avant tout du wax avec les impressions colorées, une étoffe qui est plus légère que le tissage?
Alors, il existe déjà quelques usines de wax africain comme Uniwax en Côte d'Ivoire, qui a été d'ailleurs acheté par les Hollandais. Mais en fait, il y en a assez peu. La plupart ont fermé à cause de la flambée des prix du coton dans les années 90, de la concurrence chinoise, mais aussi de la mauvaise gouvernance, en l'occurrence en ce qui concerne le Togo. Des commandes publiques n'ont jamais été honorées. Alexis Akirebourou, deuxième vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo.
Il n'y a plus d'industrie textile au Togo, et ce depuis plusieurs années. Nous avions en son temps une industrie textile qui s'appelait Dacha, qui est de très très grande renommée. Il y avait une usine également qui s'appelait Togotex, qui était à Accra également, qui a été fermée. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'industrie du pagne dans notre pays ne se porte pas très bien parce qu'on n'a plus d'unité. Et donc le rôle de la Chambre de commerce, ou son objectif, c'est de faire renaître l'ensemble de cette industrie-là afin de participer à la lutte contre la pauvreté. Et d'ailleurs, ce qui nous fait plaisir, et c'est ça le succès pour moi de cette conférence, c'est que la Chambre de commerce a reçu beaucoup de demandes de commerçants qui disent « Ah, si vous réouvrez Dacha, nous serions avec vous ». Et je pense que tout le succès de ces jours de paille, en fait, se trouve là-bas.
Qu'est-ce que vous pensez mettre en place comme moyen pour réussir à faire renaître concrètement ces usines-là?
D'abord, la première démarche, c'est de réunir autour d'une même table, comme on l'a fait aujourd'hui, les experts en industrie textile, les commerçantes, les gens de mode. Et donc, il faudrait que l'ensemble de ces personnes disent, chacun dans son domaine, qu'est-ce qui a été la cause de l'échec de ces deux usines. Et à partir de leurs réflexions, donc, nous allons tracer la nouvelle feuille de route qui va nous permettre, avec l'aide de tous les Togolais, de refaire naître Dacha ou Togotex de leur cendre.
Bon, en tout cas, toutes ces pistes ne sont pas vraiment concrètes, Alice Milo. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour relancer concrètement l'industrie du wax?
Alors, d'après les économistes que j'ai rencontrés à la manifestation Pagne, en fait, ils m'ont confié plusieurs pistes de réflexion. Des partenariats avec des investisseurs privés, en échange d'avantages fiscaux, par exemple. Faire du protectionnisme, en augmentant les droits de douane sur les produits importés. Et enfin, créer un réseau régional dans lequel certains pays s'occupent du coton, d'autres d'autres du fil, d'autres du tissu. Et en fait, c'est vraiment ça qui paraît être la piste la plus prometteuse. Mais bon, encore faut-il que les politiques suivent.
Faire du coton, faire du fil, faire du tissu, la prochaine étape, bah, c'est fabriquer le vêtement. Hein.
Et oui, effectivement, il faut miser aujourd'hui sur le prêt-à-porter. Certains l'ont bien compris. C'est le cas de Grace Wallace, styliste, qui possède son atelier dans Lomé. Une femme qui voit loin, au milieu du fracas de ses machines à coudre.
T'as pas fini, toi ?
Ouais, là, donc, tout est fini, ça va.
Qu'est-ce qu'elle a acheté en prêt-à-porter ? Là, tu refais à sa taille. Elle a demandé une manche, alors. Après, tu attaques la veste.
Alors, ici, on est à l'atelier de Grace Wallace. Donc, ici, on fait du sur-mesure. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de demandes aussi en prêt-à-porter, par exemple, souvent les week-ends. Il y a plein de gens qui m'appellent ou qui viennent ici pour demander s'il n'y a rien à acheter rapidement et voilà. Et donc, j'ai compris qu'il y avait une demande et je me lance, quoi. Donc, je fais déjà un peu du prêt-à-porter et ça marche. Et c'est ça qui me donne l'envie maintenant de créer plus grand. Dans 10 ans, je rêve d'une usine, carrément, si vous voulez. Même si c'est jusqu'à 200 personnes, j'aimerais bien. Voilà.
Vous voulez développer votre propre chaîne, en fait. C'est ça qui vous fait rêver.
Exactement. Que du prêt-à-porter. Ça créera plus d'emplois. Ça, c'est un moyen de faire baisser les coûts. C'est un moyen de vulgariser encore un peu plus, si vous voulez, tout ce qui est mode africaine. Hein. Et on peut juste confectionner, par exemple, des petits hauts qu'on vendra, qu'on peut mettre sur un jean ou un truc. Vulgariser un peu plus le pagne.
Est-ce qu'il va vous falloir pour réaliser ce rêve ?
Je pense qu'il faudrait que les banques nous suivent plus parce que c'est beaucoup de sous pour réaliser ces rêves-là. Hein. C'est des prêts, voilà. Voilà, des taux pas très élevés du tout. Je veux être reconnue, je veux qu'on connaisse la mode africaine un peu partout. Hein. Je voudrais travailler avec les grands centres commerciaux comme partout ailleurs. Un jour, mon rêve, c'est de voir, par exemple, une belle boutique dans la Galerie Lafayette, par exemple, des produits africains. C'est un rêve et je sais que j'y arriverai.
Vous avez la parole maintenant, les voisins et les voisines, après le reportage d'Alice Milo. 33 1 84 22 71 71. Quel avenir pour le pagne africain. On est en ligne avec un voisin qui nous appelle de Lomé au Togo. Bonjour Fabien.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins, les voisines.
Fabien, on vous écoute. Vous avez 26 ans, vous êtes étudiant en communication.
Oui, le sujet est pertinent. Alors, il faudrait relancer le business du pagne. On vient d'être en un premier temps à remettre sur pied les indicateurs artisanales, comme vient de le dire M. Alexis. Aujourd'hui, les indicateurs artisanales sont quasi inexistants. Donc, il va falloir les remettre sur pied pour promouvoir le produit défoulé de panne, bien évidemment. Et essayer de sensibiliser aussi hein, la masse, c'est-à-dire sur la quête essence, en quête essence du panne. Autrefois, qui faisait la fierté, hein, la fierté du continent africain et particulièrement de celui du Togo, la particularité de celle du Togo en fait.
Mais alors justement, est-ce que vous pensez que là les consommateurs seraient prêts à suivre, hein, que cet engouement serait prêt à se concrétiser et que les consommateurs seraient prêts à faire un effort pour parfois payer un petit peu plus cher, moins cher que du wax hollandais, on le disait, pour acheter des pagnes tissées en Afrique.
Nous pouvons toutefois dire que la concurrence aujourd'hui, comme vient de le dire Antichera, la concurrence est rapide par la contrefaçon des Chinois.
Fabien, il y a votre radio qui est allumée à côté. Je le dis toujours aux voisins et aux voisines qui nous appellent, quand vous passez à l'antenne, coupez vos radios, parce que sinon ça crée une cacophonie et plus personne ne s'y retrouve. Mais en tout cas, merci de nous avoir appelés pour soutenir le pagne africain. Je voudrais aussi lire le message d'Angélique qui dit: je viens de prendre l'émission en cours de route, je m'interroge, comment peut-on parler de l'identité, de l'authenticité de la femme africaine quand on la voit fière de porter des pagnes fabriqués aux Pays-Bas, quand on se plaint de la contrefaçon des Chinois, mais quid de la promotion d'un pagne imaginé, dessiné, produit, distribué en Afrique par les Africaines. Voilà. Bon, ben en même temps, faut bien comprendre aussi les difficultés de la vie quotidienne. Angélique, on laisse la parole à Leïsa qui nous appelle aussi au 33 hein, 84 22 71 71. Bonjour Leïsa, vous êtes à Lomé au Togo.
Oui, bonjour Emmanuel.
On vous écoute.
Oui, et ben sur le sujet dont vous parlez là, sur les pagnes fabriquées en Afrique, moi je suis assez partante. Ça m'intéresserait. Je ne suis pas africaine, je suis suisse d'origine. Mais je serais prête à investir un petit peu plus pour acheter des pagnes fabriquées dans le pays, ça c'est sûr. Et puis aussi, l'idée du prêt-à-porter, je trouve ça très intéressant parce que moi je ne sais pas porter le pagne. J'essaye de comprendre comment le porter et c'est un peu difficile. Mais prendre du prêt-à-porter qui serait joli, quelque chose qui est plus accessible pour moi comme étrangère, ça m'intéresse aussi.
Eh bien, merci beaucoup Leïsa pour ce témoignage. Alors évidemment, j'imagine que vous, je crois que vous travaillez dans une ONG, donc vous avez des revenus confortables, mais il y a aussi des voisines qui nous écoutent et qui nous disent, mais comment voulez-vous qu'on fasse autrement que ce qu'on fait, c'est-à-dire acheter du pain chinois?
C'est vrai que voilà, mon pouvoir d'achat est un peu au-dessus de la moyenne togolaise. Quand vous voyez que, par exemple, le SMIC, il tourne autour de 45 euros, et que vous allez en magasin et vous trouvez un pagne donc de qualité, de marque, le moins cher, ça va être dans les 50 euros, c'est vrai que c'est choquant. Et bon, moi je l'avoue que je n'achète plus dans ces grands magasins. J'achète du chinois, j'achète ce que je trouve joli et je néglige un peu la qualité. C'est un choix que j'ai fait parce que je trouvais un peu absurde de mettre de grands prix pour voilà des pannes qui sont venues d'Europe, etc. Maintenant, je vous dis, si c'est fabriqué ici, pour booster un peu l'économie africaine, je suis prête à investir.
Ouais. Et vous êtes nombreuses comme ça de cette classe moyenne aisée qui finalement se retrouve sans trop se poser de questions à acheter des produits qui ne servent pas l'économie africaine, Leïsa?
Je ne sais pas dire combien, mais en tout cas, entre mes amis expatriés, on fait tout ça. On va au grand marché et on achète, on regarde plus le dessin et ce qui nous plaît, ce qui irait bien avec un jean, avec un t-shirt qu'on a déjà, plutôt que la qualité.
Oui, c'est vrai, bah, c'est bien. Ceci dit, vous avez l'honnêteté de le reconnaître. Hein, mais est-ce que du coup, là, avec ce reportage, il y a une prise de conscience ou pas tellement? Comment vous vous sentez là?
Oui, là il faut que je me remette un peu en question.
Merci beaucoup Leïsa pour ce témoignage. Je voudrais vous lire aussi, on a eu pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux. Alors il y a Abraham à Bamako qui nous dit « La jeune génération malienne n'aime plus les pagnes africains ». Là on a changé de région, hein, on est dans une région sahélienne. Oumar à Dakar nous dit « Ici à Dakar, les filles ne savent même pas comment attacher un pagne. Tout ce qu'elles savent, c'est tout ce qu'elles savent porter, ce sont des pantalons ». Voilà, référence au témoignage de Leïsa qui disait qu'elle-même ne savait pas toujours très bien comment l'attacher. Et puis on a aussi le témoignage de Léopold à Douala qui nous dit c'est important de valoriser notre savoir-faire local. C'est révoltant de voir une Afrique toujours en train de consommer sans rien produire alors qu'elle dispose de matières premières suffisantes pour étoffer son tissu industriel. Quel beau jeu de mots. Les politiques doivent prendre leurs responsabilités. Ou encore le message d'Abdoul, les citadines africaines ne portent plus de pagne. Pourtant, elles revendiquent leurs origines africaines. Pour ma part, je pense qu'on devrait faire une vraie promotion du pagne. Alors lui, il a carrément des idées, Abdoul. Les présentateurs de journaux télévisés pourrait emporter, encourager les téléspectateurs à faire de même, on pourrait baisser le prix des pagnes de fabrication locale et puis taxer les étrangers. Moi, je porte, nous précise Abdoul, mes tenues traditionnelles ou mes complets pagnes lors d'entretiens d'embauche ou lors de mes stages. Voilà, très fier Abdoul.
7 milliards de voisins, nous avons maintenant une lucarne. Voisins, voisines, on est ensemble. Et puis on va se parler, on va se dire la vérité.
Avant qu'on se quitte, Alice Milo, après ce très beau reportage, vous avez un petit message à nous transmettre. Un voisin nous a quitté, il a participé à votre reportage à Lomé, au Togo.
Oui, il s'appelait Edze Assimadi, il avait 27 ans. Il était étudiant en stylisme et je l'ai rencontré à l'occasion de Pagne en fête. J'ai eu la chance de travailler avec lui puisqu'il m'a servi d'interprète pour réaliser ce reportage. Edze, c'était un jeune homme tout à fait brillant, avec un contact formidable avec les gens. Vraiment un très beau regard sur le monde, généreux et enthousiaste. Et son rêve, ça aurait été d'être journaliste pour la radio. C'était d'ailleurs un grand amoureux de RFI. Dans une lettre qu'il m'a adressée, il écrit, je le cite, « Je voudrais comme vous sillonner la planète pour recueillir toutes les voix du monde. » Edze, je suis certaine que tu aurais été un formidable journaliste. Il adorait sa maman. Alors voilà, on pense fort à elle aujourd'hui et à toute sa famille. Edze a été fauché par la vie, beaucoup trop tôt, beaucoup trop jeune.
Toutes nos condoléances à la famille d'Edze. C'était le Pagne sous toutes ses coutures. Reportage signé Alice Milo. Bien sûr, vous pouvez continuer à commenter, nous écrire à 7milliards@rfi.fr et puis réécouter l'émission en podcast sur le site rfi.fr. À la réalisation, Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins. Je vous propose de réécouter notre émission sur l'éducation. Faut-il réglementer les tenues à l'école et dans les universités entre les mini-shorts, les coiffures extravagantes, les décolletés? Est-ce que cela empêche finalement d'étudier? Vos témoignages et vos points de vue sont dans l'émission. On vous retrouve demain, les voisins.